C'est donc avec beaucoup de plaisir que nous allons évoquer ce compositeur, celui qui est vu comme l'amuseur du Second Empire, mais qui, de façon certaine, a aussi fait rire toute l'Europe. Celui qui aurait été le musicien officiel de Napoléon III, mais qui a surtout été impertinent et subversif, et ce, toujours avec beaucoup d'humour. Alors, pendant le temps que nous allons passer ensemble, je vous propose de suivre son parcours et de voir ce qui se passe entre le moment où ce petit immigré juif allemand, qui, lorsqu'il arrive à Paris en 1833, a seulement 14 ans, il parle quelques mots de français et n'a pas un sou en poche, et lorsqu'il meurt en 1880, à la fin du 19e siècle, enterré en grande pompe à la Madeleine, et qui est vu alors, dans le monde entier, comme le symbole de l'esprit parisien et français. Mais parler d'Offenbach, c'est bien, l'écouter, c'est bien sûr encore mieux, c'est pour ça que nous allons écouter de nombreux extraits musicaux, afin que vous puissiez vraiment entrer dans ses œuvres. Jacques Offenbach, pour vous donner une petite idée, c'est quand même 110 ouvrages pour la scène, plus des œuvres symphoniques, plus des œuvres pour violoncelle. On en profitera pour définir certains termes musicaux. On définira ce qu'est un opéra bouffe, un opéra comique ou une opérette, dont il est l'un des plus brillants représentants dans l'histoire de la musique. Et nous verrons également comment une simple décision de Napoléon III a enlevé toute contrainte d'écriture à Offenbach. Nous allons donc alterner des anecdotes historiques et des écoutes commentées de ses œuvres et parler aussi de l'humour, bien sûr, en musique. Pour commencer, je vous propose quelques éléments de biographie pour vous dire que Jacob Offenbach est né donc en 1819, on l'a dit, il est né à Cologne, dans la province de Julier-Klevberg, qui à cette époque fait partie de la Prusse, et j'ai bien dit Jacob, J-A-K-O-B, Jacob Offenbach. Son papa s'appelle Isaac, lui est issu d'une famille de musiciens, il a abandonné son métier de relieur et il gagne sa vie de façon itinérante comme chantre dans les synagogues et comme violoniste dans les cafés. Il est connu sous le nom de Der Offenbacher, d'après sa ville natale d'Offenbach-sur-le-Mans, près de Francfort-sur-le-Mans. En 1808, en vertu du décret de Bayonne, il adopte Offenbach comme patronyme. En 1816, il s'établit à Cologne, où il devient professeur et donne des leçons de chant, de violon, de flûte et de guitare, ainsi que de composition musicale. Lorsque le petit Jacob a 6 ans, son papa lui apprend à jouer du violon, et en l'espace de 2 années seulement, le garçon commence déjà à composer des chansons et des danses avec son instrument. À 9 ans, il commence l'étude du violoncelle. Alors d'abord en cachette de son papa, et son papa va le découvrir, qui s'est mis tout seul à apprendre le violoncelle, et il décide de lui payer ensuite des leçons auprès du célèbre violoncelliste Bernard Breuer. 3 ans plus tard, Jacob interprète ses propres compositions, dont les difficultés techniques impressionnent beaucoup son maître. Avec son frère Julius, qui joue du violon, et sa sœur Isabella, qui joue du piano, eh bien, ils jouent tous les trois, il faut les imaginer, en trio, dans les petites salles de bal, les auberges et les cafés. Ils interprètent de la musique de danse populaire et des arrangements d'opéra. À 13 ans, il compose sa première pièce. C'est un divertissement pour violoncelle et quatuor à cordes, qui porte la mention suivante, je cite, « Dédié avec déférence à son professeur M. Bernard Breuer par Jacob Offenbach ». Alors j'aurais bien voulu vous faire écouter cette pièce, mais il n'existe à ce jour aucun enregistrement. Isaac, le papa, mesure alors pleinement les capacités de Jacob, de son fils, et il sait que l'avenir de son enfant se fera en dehors de la Prusse, qui laisse alors si peu de chance aux Juifs de faire carrière. Et cela est vrai également dans les autres pays d'Europe, sauf à Paris. Dans les années 1830, Paris est la seule ville où un Juif peut faire carrière sans être gêné par ses origines. Il y a l'exemple du compositeur Fromental Halévy qui fait donner son opéra La Juive en 1835 à Paris et qui rencontre alors un immense succès et cela conforte Isaac du choix de Paris pour que le talent de son fils puisse s'épanouir. Et puis il faut dire aussi qu'au 19e siècle, Paris est la capitale musicale où tous les compositeurs de musique veulent y venir et si possible arriver à se faire jouer à l'Opéra de Paris qui est bien sûr la consécration suprême. Et c'est ainsi qu'au mois de décembre 1833, avec le soutien des mélomanes locaux et de l'orchestre municipal de Cologne, avec qui ils ont donné un concert d'adieu le 9 octobre, les deux enfants d'Isaac partent pour Paris accompagnés de leur père. Le voyage va durer 4 jours et il y a donc Jacob qui joue du violoncelle, il a 14 ans, et Julius qui joue du violon, lui a 18 ans. L'idée du papa, c'est bien sûr de les faire étudier à Paris. Alors, il se présente bien sûr au Conservatoire de Paris, En 1833, celui-ci est dirigé par Cherubini, et il existe alors des règles qui sont assez strictes, puisque les élèves étrangers ne sont pas admis. Mais Isaac va quand même parvenir à persuader le directeur du conservatoire de faire passer une audition à Jacob. Cherubini avait refusé plusieurs années auparavant l'admission d'un certain Franz Liszt, qui était âgé alors de 12 ans pour des motifs similaires. Il avait refusé son entrée au conservatoire puisqu'il était étranger, mais il va finalement accepter d'entendre le jeune Offenbach. Il écoute son jeu et très rapidement il l'arrête et il lui dit ceci: « Assez, jeune homme, vous êtes maintenant un élève du conservatoire. » Et son frère Julius est également admis. Les deux frères adoptent alors des formes françaises de leur prénom, Julius devenant Jules et Jacob devient Jacques, Jacques Offenbach. Au conservatoire, Jules, son frère le violoniste, lui est un étudiant assidu, il est diplômé et il va devenir professeur de violon et un chef d'orchestre connu. Il dirigera l'orchestre de son jeune frère pendant plusieurs années. En revanche, l'histoire n'est pas tout à fait la même pour Jacques, puisqu'il s'ennuie beaucoup au conservatoire et il part après seulement une année de leçons, le 2 décembre 1834. De toute façon, il n'avait pas respecté une autre règle du conservatoire de Paris, celle qui interdisait alors aux élèves de travailler dans un théâtre le temps de leurs études. Mais Offenbach, lui, s'en moque. Il s'est fait engager comme musicien dans les théâtres du Temple et il est alors subjugué par tout ce qu'il entend, les spectacles, les éclats de la ville, une vie faite de plaisir et de luxe, et il va s'en nourrir. Voici ce qu'il écrit à son papa, je le cite. « Papa, vous allez être mécontent. J'ai quitté le conservatoire. À quoi bon ? En tant qu'étranger, je ne pourrai jamais passer le concours. Mon ami du conservatoire, Hippolyte Zellingmann, m'a recommandé pour une audition à l'Opéra Comique où un poste de violoncelliste était à pourvoir. Je l'ai obtenu. Et depuis, je joue les grands maîtres, Aubert, Boieldieu, Hérold, Adam et Halévy. Croyez, mon cher papa, que désormais j'apprends ici autant qu'au conservatoire. Votre fils aimé, Jacques. » Bien sûr, le papa est très mécontent, mais il est loin puisqu'il est rentré à Cologne. En quittant le conservatoire, Offenbach se libère de l'académisme sévère du programme de Cherubini, mais comme l'écrit son biographe James Hardling, je le cite, « Il était libre, lui aussi, de mourir de faim. » Il obtient quelques emplois temporaires dans des orchestres de théâtre avant d'occuper, en 1835, le poste permanent de violoncelliste à l'Opéra Comique, dont il parle dans la lettre à son père encore en 1835. Il a seulement 16 ans, c'est un tout jeune homme. Mais à ce poste, il n'y est pas plus sérieux que lorsqu'il était au conservatoire et il se voit privé régulièrement de son revenu pour avoir fait des farces pendant les représentations. Par exemple, pendant une représentation, lui et le violoncelliste principal, son ami Zellingmann, pour se moquer du chef d'orchestre, ils s'amusent à ne jouer qu'une note sur deux, chacun à leur tour. Une autre fois, ils sabotent certains pupitres de leurs collègues pour les faire s'effondrer à mi-représentation. Ils ont bien sûr des avertissements et des amendes, mais peu importe, ils s'amusent. Il fait une impression favorable sur le compositeur et le chef d'orchestre Fromental Halévy, le compositeur de La Juive dont nous avons parlé tout à l'heure, et ce dernier va lui donner des leçons de composition et d'orchestration. L'Opéra Comique, où il est violoncelliste, est à cette époque l'une des plus grandes institutions parisiennes, l'autre étant bien sûr l'Opéra, et en termes de modernité, l'Opéra Comique était peut-être le lieu le plus important de par le répertoire joué. Le répertoire est celui qui circule le plus en France et à l'étranger, et Offenbach, qui joue dans la fosse, voit alors passer beaucoup d'œuvres, de styles et de compositions différents. Et il ne faut pas oublier aussi qu'à l'Opéra Comique, les chanteurs sur scène parle en plus de chanter. Il y a des dialogues parlés et d'autres chantés dans les œuvres qui sont données à l'Opéra Comique. Et c'est là aussi qu'il va intégrer tout l'art de la déclamation à la française que l'on retrouvera dans ses œuvres. En 1842, il fait un pari et il va mettre en musique des textes que je suis certain vous connaissez. Nous allons écouter un premier extrait. Portez toute votre attention et votre écoute sur les paroles. Normalement, cette musique, en tout cas ces paroles, devraient vous dire quelque chose. Allons-y.
Être corbeau sur
Oui, je vois qu'il y en a qui ont trouvé, effectivement, vous avez reconnu, Le Corbeau et le Renard, de Jean de La Fontaine. Jean de La Fontaine est grinçant, et comme Offenbach, il cherche à faire rire et à faire sourire avec beaucoup d'esprit. Son poste de violoncelliste à l'Opéra Comique paye peu, et il est très soucieux de son apparence. Dans une lettre, il dit que quand il va faire ses courses de légumes, il les dissimule dans l'étui de son violoncelle pour ne pas que l'on sache qu'il fait ses courses. Un musicien ne fait pas ses courses. Il observe les Franz Liszt, les Paganini, les Chopin, les grands virtuoses de son temps. Lui aussi, comme eux, il est un virtuose de son instrument, le violoncelle. Il écrira des méthodes d'une grande difficulté qui sont encore utilisées dans les conservatoires aujourd'hui pour enseigner cet instrument. C'est un virtuose romantique et il possède une telle maîtrise de son instrument qu'on le surnomme bientôt le Franz Liszt du violoncelle. Franz Liszt du violoncelle. Et il fréquente alors les salons parisiens, dont celui de la comtesse de Vaux. Il y rencontre Herminie d'Alquin, une fille d'un général, il tombe amoureux, mais il n'est pas encore dans une position financière assez brillante pour proposer le mariage. Pour étendre sa renommée et se faire connaître ailleurs qu'à Paris, il entreprend des tournées en France et en Allemagne. Il y interprète des œuvres d'Anton Rubinstein, et dans un concert dans sa Cologne natale, des œuvres de Franz Liszt. En 1844, probablement soutenu par les parents anglais d'Herminie, il entreprend une tournée en Angleterre. Il est immédiatement engagé pour se produire avec certains des musiciens les plus célèbres de l'époque, y compris Mendelssohn, Joseph Joachim, Michael Costa et Julius Benedict. La presse britannique relate un concert prestigieux, L'Illustrated London News écrit ceci, je cite, « Herr Offenbach, l'étonnant violoncelliste, s'est produit jeudi soir à Windsor devant l'empereur de Russie, le roi de Saxe, la reine Victoria et le prince Albert avec un grand succès. » Vous pouvez donc imaginer la renommée et ses qualités musicales. Voici une pièce composée par Offenbach et qu'il donnait en concert. Il s'agit d'une pièce qui s'intitule « Les larmes de Jacqueline ». C'est une élégie qui est dédiée à Madame Arsène Houssaye, composée en 1846. Je vous invite à suivre la très belle ligne mélodique proposée par le violoncelle, et puis imaginez Jacques Offenbach la jouer en concert. C'est l'extrait numéro 2.
Thank you.
Nous sommes bien loin ici de l'idée ou de l'image que l'on a de l'Offenbach d'opérette. Retenez cela, Offenbach virtuose du violoncelle et qui a aussi beaucoup composé pour cet instrument. Très tôt, il comprend l'importance cruciale de soigner ce que l'on appelle aujourd'hui les relations publiques. Il est soucieux d'attirer l'attention sur son talent, il joue de son apparence physique pour attirer la curiosité, il se donne des allures d'artiste ultra-romantique avec ses longs cheveux, son teint un peu maladif et ses évanouissements fins pendant ses récitals. Pendant les récitals, de temps en temps, il simule un peu des malaises pour entretenir cette image du musicien romantique. Il arbore des vêtements aux couleurs étonnantes, il chausse un lorgnon qui lui donne l'allure étrange et vaguement inquiétante d'un personnage tout droit sorti d'un conte d'Hoffmann, image qu'il se plaît beaucoup à cultiver. Après cette tournée, il va rentrer à Paris avec une réputation et un compte en banque nettement amélioré. Le dernier obstacle à son mariage, avec Herminimi est à présent d'ordre religieux. Il va se convertir au catholicisme avec la comtesse de Vaux comme marraine. On ne connaît pas la réaction de son père Isaac sur la conversion de son fils et l'abandon du judaïsme. Le mariage a lieu le 14 août 1844, la fiancée a 17 ans et lui 25. Le mariage durera toute leur vie et sera heureux malgré quelques aventures extra-conjugales du mari. Après la mort de Offenbach, un ami a dit qu'Herminimi, je cite, lui a donné du courage, a partagé ses épreuves et l'a réconforté toujours avec tendresse et dévotion. En 1846, il croit que la chance le favorise enfin lorsque le nouveau directeur de l'Opéra Comique, un certain Alexandre Basset, lui commande l'alcôve. Offenbach va chercher toute sa vie à être joué dans cette salle de l'Opéra Comique. C'est là qu'il veut faire donner ses œuvres. Mais après des mois d'attente, de guerre lasse, le musicien donne son ouvrage en avril 1847 à la salle Moreau-Sainty. Il décide de s'auto-produire puisque la proposition de l'Opéra Comique n'a pas eu de suite. Et ce sera très souvent le cas. Ne parvenant pas à se faire jouer là où il le souhaite, il va forcer les portes, il va s'auto-produire, il va investir tout son argent dans les nouvelles productions, ce qui fait qu'il sera toujours sans argent, même s'il en gagnera beaucoup, il réinvestit toujours. Il publie beaucoup de partitions et certaines d'entre elles se vendent bien. Après quelques encouragements et quelques déceptions, il semble sur le point de se consacrer entièrement à la composition théâtrale quand Paris subit la révolution de 1848 qui renverse Louis-Philippe dans une effusion de sang. Offenbach emmène précipitamment sa femme Herminimi et leur fille récemment née pour rejoindre sa famille à Cologne. De retour à Paris en février 49, il trouve les grands salons parisiens qui sont alors fermés. Il reprend son travail de violoncelliste et de chef occasionnel à l'Opéra Comique. Il est toujours dans la fosse, hein, il n'arrive pas à faire donner ses œuvres. Il est cependant remarqué par le directeur de la Comédie Française, Arsène Houssaye, qui le nomme directeur musical du théâtre, avec un mandat pour agrandir et améliorer l'orchestre. Alors il s'engage par contrat à former un orchestre de 20 musiciens, dont l'entretien sera totalement à ses frais. En contrepartie, il est chargé de la composition et de l'arrangement de tous les morceaux de musique et de chant qui sont introduits dans les ouvrages qu'il dirigera. Il entend soir après soir des tragédies de Racine, de Molière, et renforce son rapport avec la langue française. Certaines de ses chansons sont devenues très populaires, et il acquiert une expérience précieuse dans l'écriture pour le théâtre. Mais la direction de l'Opéra Comique, cependant, ne lui commande toujours rien. Alors il organise chez lui des fêtes fantasques qui deviennent un sujet récurrent dans les journaux. On y croit ce que Paris compte de plus brillant, Victor Hugo compris. Et en 1855, il quitte la Comédie Française. Après des années de lutte acharnée, Offenbach n'a plus la patience d'attendre le bon vouloir des directeurs et il prend la décision de fonder son propre théâtre. Napoléon III inaugure alors à Paris, en 1855, la première exposition universelle dont l'entrée est située sur les Champs-Élysées. Et cette information va tout simplement changer la vie d'Offenbach. Voici ce qu'il en dit, je le cite. Aux Champs-Élysées, il y avait un petit théâtre à louer, construit pour le magicien Lacaze, mais fermé pendant de nombreuses années. Je savais que l'exposition universelle de 1855 amènerait beaucoup de monde à cet endroit. En mai, j'avais trouvé 20 commanditaires et le 15 juin, j'ai obtenu le bail. 20 jours plus tard, j'ai réuni mes librettistes et j'ai ouvert le théâtre des Bouffes parisiens. Le théâtre est en effet petit. Il ne peut accueillir qu'un auditoire de 300 places maximum. Cependant, il convient pour les spectacles qu'on y joue. Offenbach se limite à trois voix dans les pièces et un acte, trois voix différentes, hein, trois chanteurs. Avec un effectif aussi réduit, de grandes œuvres sont bien sûr impossibles, et Offenbach, comme Hervé, présente des soirées de plusieurs pièces en un seul acte. Entre la délivrance de la licence et la soirée d'ouverture le 5 juillet 1855, c'est un mois d'activité frénétique. Imaginez bien, pendant cette période, Offenbach doit équiper le théâtre, recruter des acteurs, l'orchestre, le personnel, trouver des auteurs pour écrire les livrets pour le programme d'ouverture, et puis aussi composer la musique. Parmi ceux qu'il recrute, il y a Ludovic Halévy, qui est le neveu du premier mentor d'Offenbach, Fromental Halévy. Ludovic est un fonctionnaire respectable, mais il a aussi une passion pour le théâtre et un don pour le dialogue et les vers. Tout en poursuivant sa carrière dans la fonction publique, il va collaborer, parfois sous des pseudonymes discrets, avec Offenbach dans 21 œuvres au cours des 24 années suivantes. Ainsi donc naissent les Bouffes parisiens. Le spectacle inaugural du 5 juillet est triomphal, en bonne partie grâce à la pochade intitulée « Les deux aveugles » et évidemment grâce à l'exposition universelle qui attire beaucoup de monde dans cette avenue des Champs-Élysées. L'argument des deux aveugles, elle est très simple. C'est une bouffonnerie musicale. Nous avons deux personnages, Patachon et Girafier, qui sont deux faux aveugles qui se disputent le privilège d'un pont à Paris pour y faire leur quête. Il y a une alternance entre des passages parlés et des passages musicaux et ou chantés. Patachon joue du trombone et Girafier joue de la guitare. Le clou de la partition, c'est le boléro qui deviendra très vite célèbre et qui portera ensuite cette forme musicale. Voici ce duo entre Girafier et Patachon où les deux tentent chacun à leur tour d'amadouer un passant et c'est cette composition qui connaîtra un succès très important pour l'ouverture de ces bouffes parisiens dans l'avenue des Champs-Élysées. C'est l'extrait numéro 3.
La lune brille, le ciel scintille, viens ma gentille, suis ton Pedro. À ta fenêtre, daigne paraître, brave ton maître, ton Bartolo. Entends là-bas les Manolas,
entends là-bas les Manolas,
les beaux, les races, les femmes d'Angas.
Viens s'il fait bon, 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 bon,
viens s'il fait bon, 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 bon,
bon,
si ton Pedro, de ding ding, de ding ding, de ding ding, de ding ding,
de ding ding, de ding ding, de ding ding, de ding ding, de ding ding, de ding ding, de ding ding, de ding ding, de ding ding, de ding ding, de ding ding, de ding ding,
la lune brille, le ciel scintille, viens ma gentille, si ton Pedro, à ta fenêtre, daigne paraître, brave ton bâton. La 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 la.
En 1855, les Champs-Élysées ne sont pas encore la grande avenue aménagée par le baron Haussmann dans les années 1860. C'est une allée qui est non pavée. Le public qui afflue au théâtre d'Offenbach à l'été et à l'automne de 1855 ne désire pas s'y aventurer en hiver. Offenbach trouve alors un lieu plus approprié, près du passage Choiseul, aujourd'hui dans le deuxième arrondissement de Paris, le théâtre des jeunes élèves, connu également sous le nom de Salle Choiseul ou Théâtre Comte. En partenariat avec son propriétaire, il y installe les Bouffes parisiens pour la saison hivernale. Décidément heureux avec ses spectacles d'ouverture, il obtient un nouveau succès phénoménal avec Bataclan lorsqu'il s'y installe en décembre de cette même année 1855. La compagnie retourne à la salle La Case sur les Champs-Élysées pour les saisons d'été 1856, 1857, 1859, se produisant à la salle Choiseul en hiver. En mars 1861, il abandonne les représentations à la salle La Case et il ne va conserver que la salle Choiseul. Sous la direction d'Offenbach, les Bouffes parisiens, donc anciennement la salle Choiseul, vont mettre en scène des œuvres de nombreux compositeurs, parmi eux Léon Gastinel et Léo Delibes. Quand Offenbach demande à M. Rossini la permission de monter sa comédie « Il signor Bruschino », Rossini lui répond qu'il est heureux de pouvoir faire n'importe quoi pour, je cite, « le Mozart des Champs-Élysées. Mozart des Champs-Élysées. Voilà comment Monsieur Rossini parle de Monsieur Offenbach. Il parle bien sûr des Champs-Élysées, c'est en référence à la première salle des Bouffes parisiens qui était donc dans cette avenue. Bien que les Bouffes parisiens jouent régulièrement salle comble, le théâtre est constamment au bord de la faillite, principalement à cause de ce que son biographe, le biographe d'Offenbach, Alexander Faris, appelle, je le cite, « l'extravagance incorrigible d'Offenbach en tant que manager ». Un autre de ses biographes, André Martinet, écrit qu'il dépense l'argent sans compter en costumes ou en renouvelant les velours de la salle. En outre, Offenbach est personnellement très généreux et très hospitalier. Les pièces qu'il compose jusqu'à présent sont courtes et en un seul acte. Alors pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que c'est interdit de faire autrement. Tout ce qui n'est pas autorisé à être donné à l'opéra ou à l'opéra comique doit suivre les consignes suivantes. Un seul acte est limité à 4 chanteurs. Toute la première partie de sa carrière, une trentaine d'œuvres, est contrainte par cette obligation. Il compose des opérettes, c'est-à-dire des petits opéras. Alors, la raison de cette limitation, c'est celle de ne pas faire de concurrence à la musique que l'on donne dans les institutions officielles. C'est une déclinaison du privilège accordé par Louis XIV à Perrin en 1669. On veut avoir un œil, ou plutôt une oreille, sur toute la musique qui est donnée à l'opéra. Alors Offenbach va jouer avec ses contraintes. Par exemple, dans son opérette Croquefer, il ajoute un cinquième personnage. Et vous savez quoi, ce personnage? Eh bien, il est muet. Comme ça, ça lui permet d'avoir un cinquième personnage sur scène. Avec son opérette Mesdames de la Halle, il s'agit ici des halles hein, où on vend des légumes, les halles au sens de marché. Pour cette opérette, donc, il va obtenir l'autorisation exceptionnelle d'avoir un chœur à sa disposition. Et il est tellement content d'avoir un chœur qu'il va faire débuter cette opérette par un chœur qui chante dans un marché et qui chante « Achetez les légumes ». Alors voici les paroles. « Achetez nos légumes et nos fruits, ils ne sont pas chers, ils sont exquis. Vous ne pourriez pas dans tout Paris en trouver à plus juste prix. » Écoutez, c'est l'extrait numéro 4. Et c'est toujours dans ce théâtre des Bouffes parisiens qu'il va donner son célèbre Orphée aux Enfers, qui marque son premier grand succès. Nous sommes en octobre 1858. Alors Offenbach, comme d'habitude, dépense largement pour la production, avec des décors de Gustave Doré, des costumes somptueux, un casting de 20 protagonistes, un grand chœur et un orchestre. Première œuvre lyrique, il attaque l'Antiquité. Le classicisme, l'Antiquité, à l'époque, est la base de la culture des élites. Toute la bourgeoisie connaît son Homère, son Virgile, et vous pouvez donc imaginer l'impact d'une composition musicale qui joue avec ses codes, ses références. Crémieux et Halévy, les librettistes, ont pris un malin plaisir à transformer la mythologie en rendant méconnaissables les personnages et les situations. Orphée, modèle de fidélité, n'aime plus sa femme. Eurydice trompe son mari. Diane est éprise d'Actéon. Les dieux de l'Olympe, formant une révolte, on s'amuse follement en enfer et Jupiter se métamorphose en mouche. À travers ce dernier exemple, il est facile de voir une allusion à peine voilée à Napoléon III, grand amateur de femmes, qui avait emprunté au Premier Empire l'emblème de l'abeille. Voici le galop que tout le monde connaît, le galop d'Orphée. Notez comme est construite cette pièce quand on parle de la folie d'Offenbach. En voici un très bel exemple, un tempo rapide, une musique entêtante, une accélération qui s'approche de la folie complète. Et bien sûr, impossible de vous enlever cet air de la tête une fois que vous l'avez entendu. C'est l'extrait numéro 5. Mais ce parti pris de se moquer de la mythologie grecque a aussi suscité, entre autres, des réactions de condamnation parmi certains critiques de l'époque qui voyaient une sorte de profanation d'un héritage essentiel. Une critique outragée d'un certain Jules Janin, le critique du Journal des débats, fustige l'opérette pour profanation et irrévérence, ostensiblement à la mythologie romaine, mais en réalité à Napoléon et à son gouvernement, considérés comme les cibles de sa satire. Offenbach et son librettiste Hector Crémieux s'emparent de cette publicité gratuite et participent à un débat public animé dans les colonnes du quotidien parisien Le Figaro. L'indignation du critique Janin rend le public impatient de voir la pièce. Les recettes sont prodigieuses. Parmi ceux qui voulaient voir la satire de l'empereur, il y avait l'empereur lui-même qui réserve une représentation en avril 1860. Malgré de nombreux succès pendant le reste de la carrière d'Offenbach, Orphée aux Enfers reste le plus populaire. Les raisons de son succès sont bien sûr le cancan final que nous avons écouté, mais aussi pour beaucoup les valses qui rappellent Vienne, mais avec une nouvelle saveur, une nouvelle couleur bien française. Voici une valse extraite d'Orphée. C'est Karajan qui dirige l'Orchestre Philharmonique de Berlin. C'est l'extrait numéro 6. Voici une valse viennoise, mais avec une couleur française.
Thank you.
En 1860, soit 5 ans après l'ouverture des Bouffes parisiens, l'opéra comique daigne enfin créer une des œuvres d'Offenbach. Pour lui, c'est une forme de consécration, lui qui voulait tant être joué à l'opéra comique. Mais cette consécration va se révéler un échec cuisant. Il crée son opéra bouffe qui s'intitule Barkouf, B-A-R-K-O-U-F. Il prend un grand risque de prendre comme héros de sa pièce un chien. Barkouf, qui devient gouverneur d'une ville à Lahore, en Inde, même si on est en Inde pour l'exotisme, montrer qu'un chien peut gouverner et le faire même mieux que ceux qui l'ont précédé, c'est quand même risqué. L'ouvrage est longtemps interdit par la censure, qui interdit de monter l'opéra bouffe, et c'était assez exceptionnel pour un opéra comique. Le librettiste, c'est Eugène Scribe, qui avait été imposé par l'opéra comique à Offenbach, et tous les deux parviennent quand même à faire lever la censure. La genèse de cet opéra bouffe est donc ardue et en compte en plus de nombreux désistements de chanteurs pendant les répétitions. Quoi qu'il en soit, la déconvenue est à la mesure des attentes d'Offenbach, car Barkouf lui vaut une levée de bouclier de la part de nombreux journalistes. Par exemple, le journaliste Scudo, qui dans le journal de l'année musicale qualifie l'œuvre de, entre guillemets, « chiennerie ». Je le cite. « Est-il possible d'imaginer une œuvre plus misérable, plus honteuse pour tous ceux qui ont coopéré et plus indigne d'être représentée devant un public qui a le droit d'être respecté que Barkouf, chiennerie en 3 actes de l'invention de Monsieur Scribe ? Je dis avec intention une chiennerie, car c'est un chien nommé Barkouf qui est le héros de la pièce et la musique de Monsieur Offenbach est digne du sujet qu'il a inspiré. Comment l'administration d'un théâtre subventionné, on parle de l'opéra comique, n'a-t-elle pas jugé ce que valait l'ouvrage qu'on avait mis à l'étude et que tous les artistes déclaraient impossible ? Berlioz, lui aussi, se déchaîne contre Offenbach, qui voit en Barkouf la fin du grand opéra magnifique et sublime. Dans son feuilleton du Journal des débats, il écrit ceci « Décidément, il y a quelque chose de détraqué dans la cervelle de certains musiciens. Le vent qui souffle à travers l'Allemagne les a rendus fous. » Et Offenbach passe pour l'Allemand qui est venu en France pour saper les belles valeurs morales, faire d'un chien qui aboie le souverain d'un royaume, quelle honte. Pourtant, sur les affiches, c'est bien noté en gros « Barkouf, bouffonnerie ». C'est donc bien un opéra bouffe. Et Offenbach trouve que cela fait trop longtemps que personne ne rit à la salle Favart à l'opéra comique avec des opéras soi-disant comiques. En fait, on comprend que l'intelligentsia musicale de l'époque veut bien tolérer les succès du maestrino, du petit maître, au bouffe parisien, mais qu'il n'a définitivement pas sa place à l'opéra comique sur les scènes officielles. Petit aparté sur le nom des œuvres d'Offenbach. On parle d'opérette et d'opéra bouffe depuis tout à l'heure. Alors en général, toutes ces pièces limitées en un acte dont je vous ai parlé tout à l'heure, on parle d'opérette, de petits opéras. Et pour ces autres œuvres, Orphée, La Belle Hélène, on parle d'opéra bouffe. C'est donc un genre d'opéra. Mais quelle différence y a-t-il entre un opéra bouffe et un opéra comique ? Dans les deux cas, il y a des dialogues parlés, en plus des passages chantés, mais l'opéra comique peut aussi évoquer des sujets sérieux. Entre guillemets, Carmen, par exemple, c'est un opéra comique. Pourtant, elle meurt bien à la fin. L'opéra bouffe, lui, parle toujours de bouffonnerie, de sujets légers. C'est la principale différence avec le genre de l'opéra comique. J'aurais beaucoup aimé vous faire écouter un extrait de Barkouf, mais devant les critiques lors de la création, comme je vous l'ai expliqué, il a vite été retiré après seulement 7 représentations. Et c'est seulement en décembre 2018, il y a un peu plus d'un an, 2 ans, que Barkouf a été remonté à l'Opéra National du Rhin à l'occasion du bicentenaire de la naissance du compositeur. En 2019, il n'y a donc pas encore d'enregistrement disponible. En tout cas, retenez que le rêve d'Offenbach, celui qui comptait tellement pour lui être joué et reconnu et consacré à l'opéra comique, se révèle pour l'instant un échec cuisant. Mais cela ne va pas durer. Il a d'abord des joies personnelles. Il obtient la nationalité française en 1860 par ordre personnel de Napoléon III. Et l'année suivante, il est nommé chevalier de la Légion d'honneur. Au mois de mai 1860, lui qui était papa de 4 filles, devient le papa d'un petit garçon qui lui procure beaucoup de joie. Et le 5 janvier 1861, il crée au bouffe parisien Salle Choiseul la chanson de Fortunio qui est inspirée de la pièce d'Alfred de Musset, Le Chandelier. Un seul acte, composé en une semaine, et une semaine supplémentaire pour la répétition, tout va extrêmement vite avec Monsieur Offenbach. Cette pièce rencontre alors un succès qui tombe à point nommé après l'échec de Barkouf, une quinzaine de jours plus tôt. Cette opérette n'a dans son ensemble jamais vraiment fait partie de ce que l'on peut appeler le répertoire standard. Néanmoins, et en particulier pendant la période antérieure à la Première Guerre mondiale, la chanson-titre est restée extrêmement populaire en tant qu'élément de récital. Les chanteurs l'interprètent. Nous allons écouter cette chanson et j'aimerais avec cet extrait vous présenter le Jacques Offenbach tendre. Car il y a aussi beaucoup de tendresse dans sa musique, c'est certainement ce mélange de tendresse et d'humour qui caractérise assez bien, je trouve, la musique de ce compositeur. Voici la tendre chanson de Fortunio, toute simple et gracieuse, comme Offenbach sait les écrire aussi. C'est l'extrait numéro 7.
Si vous croyez que je vais dire qui j'ose aimer, je ne saurais pour un empire vous la nommer. Nous allons chanter à la ronde si vous voulez que je
Et cette œuvre, la chanson de Fortunio, va continuer à être mise régulièrement à l'affiche à Paris en 1861 et 1862. L'œuvre a été vite représentée à travers toute l'Europe et au-delà. La première viennoise a eu lieu le 25 avril, puis l'année suivante c'est l'Allemagne, puis Bruxelles, Berlin, Budapest, Prague, Graz, Stockholm en 1862, Saint-Pétersbourg en 64, New York et Bâle en 67, Milan en 68 et Londres en 1871. Offenbach est célèbre dans toute l'Europe et au-delà, oubliez l'idée d'un compositeur français qui n'a de succès que dans son pays. Vienne est après Paris la ville où est donnée alors le plus d'œuvres de Jacques Offenbach et il y est très célèbre. Les années 1860 lui réussissent tout particulièrement, c'est la période la plus brillante de toute sa carrière, qui voit se succéder les chefs-d'œuvre La Belle Hélène, 1864, Barbe Bleue, 1866, La Vie Parisienne, La Grande Duchesse de Gerolstein, Les Brigands, La Péricole. Et il y a aussi une décision importante de Napoléon III, le 6 janvier 1864, puisque ce dernier décrète la liberté des théâtres. Pour la première fois, tous les théâtres pourront produire ce qu'ils voudront dans les formats qu'ils voudront, mettant fin ainsi à tout contrôle administratif, hormis la censure. C'est certainement la décision politique la plus importante de tout le XIXe siècle en matière théâtrale. Toutes les compositions d'Offenbach mettent particulièrement en avant l'humour, bien sûr, du compositeur. L'humour qu'il avait lui-même dans la vie de tous les jours. Et l'humour en musique avant Offenbach, eh bien, ce n'était pas si courant. Alors bien sûr, Mozart, Rossini, Donizetti ont certes brillamment réussi à traduire l'atmosphère parfois très amusante des Noces de Figaro, du Barbier de Séville ou de Don Pasquale, mais on conviendra aisément que l'aspect comique de ces œuvres est sans commune mesure avec la folle explosion d'hilarité que l'on retrouve dans Orphée aux Enfers, La Belle Hélène ou La Vie Parisienne. Avec Offenbach, c'est un torrent inédit de plaisir qui déferle brusquement sur la scène lyrique. C'est la parodie poussée au paroxysme qui bouscule la tragédie lyrique. Et c'est enfin la bouffonnerie musicale qui atteint au grand art. Un siècle plus tôt, Jean-Philippe Rameau avait certes pavé la voie avec son Platé 1745, qui avait beaucoup d'humour, beaucoup de légèreté également, mais l'ouvrage était resté sans véritable postérité. Et pour évoquer l'humour, j'ai choisi un extrait très célèbre de La Belle Hélène, composé en 1864. À l'automne 64, Offenbach convainc le théâtre des variétés d'accueillir Hortense Schneider, dont je vous parlerai juste après. Ce théâtre des variétés est plus grand et plus luxueux que celui des bouffes parisiens, et ce sera celui des grands, grands succès d'Offenbach. C'est donc Hortense Schneider qui joue le rôle titre de La Belle Hélène. Depuis ses premiers succès, elle est l'une des stars de la scène musicale française, Elle a des exigences financières importantes et elle est notoirement capricieuse, mais Offenbach est persuadé qu'aucune autre chanteuse ne peut l'égaler dans le rôle d'Hélène. Les répétitions pour la création au Théâtre des Variétés sont tumultueuses, sont émaillées de disputes avec les autres protagonistes. La censure fustige la satire de la cour impériale et le directeur du théâtre tente de freiner l'extravagance d'Offenbach en essayant de réduire au maximum les dépenses. La belle Hélène, c'est l'histoire de cette reine de l'Antiquité, à l'origine de la guerre de Troie, parce qu'elle avait été enlevée à son mari, le roi Ménélas. Voici en musique la présentation des rois de la Grèce. J'aimerais vous lire les paroles. Ces rois remplis de vaillance, c'est les deux Ajax, étalant avec jactance leur double thorax, parmi le fracas immense des cuivres de Saxe. Le cœur enchaîne, ces rois remplis de vaillance, c'est les deux Ajax. Puis, je suis le bouillant Achille, le grand Myrmidon, combattant un contre mille, grâce à mon plongeon, j'aurai l'esprit bien tranquille, n'était mon talon, je suis le bouillant Achille, le grand Myrmidon. Voici le bouillant Achille, le grand Myrmidon. Ensuite, je suis l'époux de la reine, poux de la reine, poux de la reine, le roi Ménélas. Je crains bien qu'un jour Hélène, je le dis tout bas, ne me fasse de la peine. N'anticipons pas, je suis l'époux de la reine, poux de la reine, poux de la reine, le roi Ménélas. C'est l'époux de la reine, poux de la reine, le roi Ménélas. Le roi barbu qui s'avance, bu qui s'avance, bu qui s'avance, c'est Agamemnon. Et ce nom seul me dispense d'en dire plus long. J'en ai dit assez, je pense, en disant mon nom. Le roi barbu qui s'avance, c'est Agamemnon. Le roi barbu qui s'avance, bu qui s'avance, bu qui s'avance, c'est Agamemnon. Nous allons écouter cet extrait. Bien sûr, c'est un air qui, là encore, reste longuement en tête une fois que on l'a écouté. C'est l'extrait numéro 8. Allons-y.
Avec je danse le double thorax. Parmi le fracas immense des cuivres de Saxe, c'est le roi rempli de vaillance, pli de vaillance, pli de vaillance, c'est les deux Ajax, et de les deux Ajax, c'est le roi rempli de vaillance, pli de vaillance, c'est les deux Ajax, c'est le roi rempli de vaillance, pli de vaillance, c'est les deux Ajax. Je suis le bouillant Achille, le bouillant Achille, le bouillant Achille, le grand Myrmidon.
Le Myrmidon.
Combattant un contre mille, grâce à mon plongeon.
Grâce au plongeon.
J'aurai l'esprit bien tranquille, net et mon talon. Je suis le bouillant Achille, le bouillant Achille, le bouillant Achille, le grand Myrmidon, le Myrmidon.
Voici le bouillant Achille, le bouillant Achille, le grand Myrmidon. Voici le bouillant Achille, le bouillant Achille, le grand Myrmidon.
Je suis les poux de la reine, le poux de la reine, le poux de la reine, le roi Ménélas. Je crains bien qu'un jour Hélène, je le dis tout bas. Ne me fasse de la peine, n'anticipons pas. Je suis les poux de la reine, le poux de la reine, le poux de la reine, le roi Ménélas.
Qui s'avance, c'est un gamin, 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 c'est
Alors oui, effectivement, passe d'une ride 150 ans après, comme le dit Monique. Alors, il faut savoir que pour cet air, c'est vraiment pendant la répétition, au moment de la répétition, que les librettistes Henri Meillac et Ludovic Halévy vont décider de changer le texte, puisque à l'origine, ce devait être pour Ménélas, le texte devait être ceci, le fameux époux de la reine. Il aurait dû chanter ceci, « Je suis le mari de la reine, ris de la reine, ris de la reine », ce qui était déjà pas mal aussi, mais finalement, ils vont changer pour « époux de la reine, poux de la reine », qui se révèle encore plus efficace, bien sûr, et drôle. Les librettistes et Offenbach profitent de la souplesse rythmique de la langue française et une des caractéristiques fréquentes de la mise en mots d'Offenbach, c'est cette répétition absurde de syllabes isolées pour obtenir un effet comique. Poux de la reine, le roi barbu qui s'avance, bu qui s'avance, etc. C'est vraiment une marque de fabrique. Et si cet air fonctionne aussi bien, c'est bien sûr le choix de la mélodie, mais aussi le fait tout simple que cette mélodie soit répétée 4 fois de suite. Vous le savez, la répétition en musique, vous pouvez retenir cela, c'est un facteur extrêmement important et il est utilisé par tous les compositeurs. C'est un moyen très simple et très efficace de faire passer une information en la répétant tout simplement. Et c'est comme ça qu'on va se coucher le soir en ayant en tête un air d'Offenbach. Et la preuve en musique avec la fin de l'acte 1 de cette belle Hélène où nous allons retrouver le thème musical entendu. Et tout va ensuite s'accélérer encore et on arrive à la folie d'Offenbach où tout se mêle avec un élan, une joie, une énergie que lui seul sait conduire et diriger. Le roi Ménélas doit partir pour la Crète et tout le monde le pousse à partir, surtout sa femme Hélène, parce qu'elle n'a qu'une idée en tête, c'est de pouvoir profiter tranquillement de son amant et tout le monde va lui répéter cette phrase « Pars pour la Crète, pars pour la Crète », c'est l'extrait numéro 9. Dans la liste des extraits musicaux que je vais vous envoyer juste après cette conférence, vous pourrez regarder une vidéo de cet extrait. C'est une mise en scène irrésistible de Laurent Pelly et vous découvrirez ce qui accompagne ce « Pars pour la Crète ». Je vous laisse la surprise, je suis certain que vous allez beaucoup, beaucoup aimer ça. Il faut aussi se remettre dans le contexte de l'époque, puisque aller écouter la belle Hélène, c'est alors presque un scandale d'aller voir cette femme qui trompe son mari et qui n'est pas punie à la fin. Le répertoire musical de l'époque est rempli d'héroïnes qui certes trompent leur mari, mais qui finissent tragiquement, alors que la belle Hélène ne finit pas du tout tragiquement et c'est délicieusement immoral. Et c'est aussi pour cela que cette œuvre et tant d'autres rencontrent et rencontrent encore aujourd'hui de très grands succès. Et notre ami Offenbach, qui a un grand sens de la communication, il est largement aidé pour faire la publicité de ses créations par un journal qui est très connu à l'époque et qui s'appelle Le Figaro. Je m'explique. Depuis 1854, Le Figaro est aux mains d'Hippolyte de Villemessant, un des plus célèbres journalistes du XIXe siècle, et il souhaite que son journal soit, je le cite, « une arène ouverte et libre, loin de toute considération politique ». C'est dans cet esprit qu'il publie très volontiers les correspondances du musicien Jacques Offenbach. Au-delà de cette intention éditoriale, les deux hommes sont en fait réellement des amis de longue date. Ils se côtoient dans les milieux mondains. En 1854, le journaliste cède même au musicien un terrain en Normandie. Désormais, lors de leur villégiature normande, ils sont voisins. Le directeur du Figaro aime à souligner qu'Offenbach est, je le cite, « un de ses vieux amis ». Voilà comment Villemessant explique cette amitié dans le Figaro en 1873, je le cite. Il est un de ceux qui ont commencé leur carrière en même temps que moi. Nous avons, je puis le dire, réussi chacun dans le genre que nous avons créé, lui dans l'opéra bouffe, moi dans le petit journalisme. Nos succès ont été frères, car ceux qui vont entendre la musique d'Offenbach lisent le Figaro et réciproquement. Le journal, il est vrai, fait place à l'époque à la vie mondaine, le théâtre et la mode. Ayant participé à la création du théâtre sous le titre affriolant des bouffes parisiens, dont le directeur est bien sûr Jacques Offenbach, Villemessant déclare alors Le Figaro journal officiel des bouffes parisiens. Et il nomme Offenbach, et le nom d'Offenbach devient le nouvel emblème de la gaieté parisienne. Offenbach utilise le journal comme un merveilleux outil de communication, avec un style vif, agrémenté de bons mots. L'ambitieux artiste se fait de la publicité. Dans les moments difficiles de sa carrière, Le Figaro offre également au compositeur des tribunes. Offenbach y défend lui-même ses œuvres. Au lendemain de la première de Barkouf, vous savez, la première création présentée à l'Opéra Comique en 1860, le musicien va utiliser cette tribune pour anticiper les critiques qu'il prévoit. Voici ce qu'il dit alors, je le cite. « Je vais être très vivement attaqué. Certaines personnes veulent bien supporter mes partitions en bouffe parisien, mais si je sors du passage Choiseul, si je mets le pied à l'Opéra ou à l'Opéra Comique, c'est un sacrilège. Je prévois un déchaînement au sujet de Barkouf. » Affirme-t-il dans les colonnes du Figaro, il a raison. Toute une presse maltraite le compositeur et c'est Berlioz qui ouvre la danse dans le journal des débats. Le Figaro s'empresse de venir à la rescousse en publiant un long et élogieux discours pour Offenbach. Voilà pour Offenbach et ses liens avec le Figaro. D'un point de vue de la composition musicale à présent, le grand modèle de compositeur pour Jacques Offenbach, c'est Mozart. Puisque comme lui, il cherche la grâce à travers la pureté de la mélodie, le raffinement de l'orchestration et la sincérité de l'émotion. Plusieurs pages d'Offenbach touchent effectivement à l'ineffable mozartien, comme le duo entre Pauline et le baron de Gondremarck dans La vie parisienne. À n'en point douter, Rossini a 100 fois eu raison d'appeler Offenbach, je le cite, et je l'ai dit tout à l'heure, le Mozart des Champs-Élysées, compliment qui a dû le ravir au plus haut point. Voici donc ce duo très mozartien, qui va peut-être vous sembler un peu naïf, cela tient aussi au fait que le texte est en français. On comprend les paroles et du coup, ça nous semble un peu moins... On écoute plus les paroles que la musique, alors que quand c'est Mozart, on se concentre plus sur la musique que sur le sens des paroles. C'est l'extrait numéro 10, un extrait de La vie parisienne, le duo entre Pauline et le baron. Allons-y. Quoi qu'il en soit, la musique d'Offenbach semble toujours en adéquation avec son époque, qui est alors en pleine effervescence industrielle, et qui voit notamment la croissance exponentielle des moyens de transport, en particulier du chemin de fer, qu'il utilise dans ses innombrables déplacements entre la France, l'Autriche et l'Allemagne. Alors comment s'étonner dès lors que le premier acte de la vie parisienne se déroule où ? Eh bien dans une gare, et qu'on y entende une de ses séquences rythmiques les plus trépidantes, je cite « La vapeur nous amène ». Voici des paroles. « Entrons, entrons dans la fournaise, entrons, voici le grand moment. Pour les gens qui sont à leur aise, Paris est un endroit charmant. N'avez-vous rien à déclarer ? Non, rien. Nous venons, arrivons, de tous les pays du monde, par la terre ou bien par l'onde. Italiens, Brésiliens, Japonais, Hollandais, Espagnols, Romagnols, Égyptiens, Péruviens, nous venons. Arrivons, de tous les pays du monde, par la terre ou bien par l'onde, nous venons, arrivons. La vapeur nous amène, nous allons envahir la cité souterraine, le séjour du plaisir. On accourt, on s'empresse, pour connaître, au Paris, pour connaître l'ivresse de tes jours, de tes nuits. Tous les étrangers ravis, vers toi s'élance, Paris. Nous allons chanter, nous allons crier, nous allons souper, nous allons aimer. Oh mon Dieu, nous allons tous nous amuser comme des fous. Voici cet extrait de la vie parisienne, la vapeur nous amène, une ode au chemin de fer. C'est l'extrait numéro 11. Tous les chanteurs qui ont chanté ou qui chantent encore aujourd'hui du Offenbach sont confrontés au défi de jouer la comédie. On imagine bien dans cette scène très visuelle pour laquelle il faut non seulement projeter la voix différemment, mais aussi bien articuler le texte afin de le rendre parfaitement compréhensible. Les chanteurs doivent développer leur talent d'acteur, à l'instar des premiers interprètes d'Offenbach qui se produisirent tous au théâtre, ne fût-ce que de façon sporadique. Les frontières étant à l'époque plus poreuses que de nos jours, les artistes de la scène devaient posséder les rudiments du jeu, du chant et de la danse. Voilà qui permet de mieux comprendre comment Offenbach a pu composer la vie parisienne pour la troupe de comédiens du Palais Royal, qui n'étaient pas, certes, des virtuoses du chant. La vie parisienne, c'est une pièce de théâtre. Il s'agit d'esprit parisien, un Allemand fait entrer l'esprit d'une ville en musique. Mais la vie parisienne, c'est aussi à l'époque un journal à la moralité douteuse, avec des filles à peine vêtues. C'est un journal, la vie parisienne, à l'époque. La légèreté en 1867, Offenbach obtient encore un immense succès avec la Grande Duchesse de Gerolstein, qui n'est ni plus ni moins qu'une satire du militarisme. La première a lieu 2 jours après l'ouverture de l'exposition universelle de 1867. Le public parisien et les visiteurs étrangers se précipitent pour assister au nouveau spectacle d'Offenbach, dont le roi de Prusse, accompagné de son ministre Otto von Bismarck. À Lévis, un des librettistes d'Offenbach, qui a également une expérience de haut fonctionnaire, voit clairement les menaces imminentes de la Prusse. Il écrit dans son journal « Bismarck aide à doubler nos recettes. Cette fois, c'est la guerre à laquelle on rit et la guerre est à nos portes. » Voici l'air très connu « J'aime les militaires ». Voici les paroles, c'est la Grande Duchesse qui chante cet air. « Ah, que j'aime les militaires, leur uniforme coquet, leurs moustaches et leurs plumets. » Que j'aime les militaires, leur air vainqueur, leur manière, en eux, tout me plaît. Quand je vois là nos soldats, prêts à partir pour la guerre, fixes, droits, l'œil à 15 pas, vrai Dieu, je suis toute fière, Seront-ils vainqueurs ou défaits? Je n'en sais rien, je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que j'aime les militaires, etc. Voici cet extrait. C'est le numéro 12.
Je vois là mes soldats prêts à partir pour la guerre. Fixe droit, l'œil à 15 pas. Vrai Dieu, j'en suis toute fière. Seront-ils vainqueurs ou défaits? Je n'en sais rien ce que je sais. Je n'en sais rien ce que je sais. Je n'en sais rien ce que je sais. Oh, j'aime les militaires, j'aime les militaires, j'aime les militaires. J'aime, oui, j'aime. Je sais ce que je voudrais. Je voudrais être cantinière. Près d'eux, toujours je serai. Et je les percerai. Avec vaillante et légère. Au combat, je m'élancerai. Me plairait-il? Je n'en sais rien, ce que je sais. Je n'en sais rien, ce que je sais. Oh, j'aime les militaires, j'aime les militaires, j'aime les militaires. Leur uniforme est coquet, leur moustache et leur plumée. J'aime les militaires, j'aime les militaires, j'aime les militaires.
Et il sera encore question de militaires et de bruit de bottes dans Les Brigands, qui est créé en 1869. Écoutez cet air qui s'intitule « J'entends un bruit de bottes », mais qui n'a pas du tout la même couleur que la musique que nous venons d'écouter.
Écoutez, écoutez, voyez-vous là-bas, 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 tout près des grottes, reluire des casques d'acier. Voyez là-bas, j'entends un bruit de bottes,
de bottes,
de bottes. J'entends un bruit de bottes, de bottes, de bottes, de bottes, de bottes. C'est le premier carabinier, c'est le premier carabinier. Ce sont les bottes, les bottes, les bottes, les bottes, les bottes, les bottes. Les bottes des carabiniers, les bottes des carabiniers. J'entends un bruit de bottes, de bottes, de bottes, de bottes, de bottes. C'est le premier carabinier, c'est le premier carabinier. Ce sont les bottes, les bottes, les bottes, les bottes, les bottes, les bottes. Les bottes des carabiniers, et des carabiniers.
Et les bruits de bottes, ce sont ceux de la guerre franco-prussienne de 1870 qui va mettre un terme à ces années fastes et qui voit pour Offenbach combattre son pays de naissance contre son pays d'adoption. Il est tiraillé entre la France et la Prusse et il prend clairement position pour son pays adoptif, la France, mais il se fait calomnier par des journalistes allemands qui l'accusent de composer des chants contre l'Allemagne. Au cours de la décennie suivante, un certain nombre de journalistes français lui font porter l'opprobre d'avoir contribué à la défaite en raison de ses origines, de son prétendu soutien à l'Empire et de son répertoire faisandé, en somme d'être l'incarnation d'un régime abhorré. La France est traversée par des sentiments violemment anti-allemands et malgré sa citoyenneté française et la Légion d'honneur, sa naissance et son éducation à Cologne le rend suspect. Ces opérettes sont considérées comme l'incarnation de tout ce qui était superficiel et sans valeur dans le régime de Napoléon III. La grande-duchesse de Gerolstein est interdite en France à cause de sa satire antimilitariste. Il part en Espagne mettre sa famille à l'abri. Une profonde dépression s'ensuit. Il part en Italie où il vit dans une solitude totale. La guerre a détruit tout ce qu'il a construit. Il rentre 10 mois plus tard à Paris. Lui qui était joué partout n'est plus joué nulle part. Les Parisiens ont honte d'avoir ri avec lui après l'humiliante défaite de Sedan. Il est honni par une presse nationaliste qui s'acharne. Mais là encore, il peut compter sur son ami Hippolyte de Villemessant, directeur du Figaro. Offenbach fera écrire ceci dans les colonnes du journal, je le cite. Certains journalistes allemands poussent la calomnie jusqu'à imprimer que j'ai composé plusieurs chants contre l'Allemagne. Les injures les plus misérables accompagnent ces assertions. À la fin 1871, la vie à Paris est redevenue normale et Offenbach met fin à son exil volontaire et il décide de reprendre la direction et le contrôle du Théâtre de la Gaîté en juillet 1873. C'est alors le plus grand et le plus moderne théâtre de Paris. On compte 1800 places. Et puisque les Parisiens ne veulent plus rire avec lui, eh bien il va les émerveiller. Il invente un nouveau genre, l'opéra féerique. En 1872, ce sera entre autres le roi Carotte qui impose avec éclat ce nouveau genre. 24 tableaux grandioses, des centaines de costumes extraordinaires, des effets scéniques ahurissants. Le roi Carotte sera le plus grand spectacle donné sur une scène à Paris et qui annonce déjà le music hall, avec par exemple la présence du fameux grand escalier au milieu de la scène. Il donne aussi le Voyage dans la Lune de Jules Verne, un opéra féerique, là aussi, 4 actes, 23 tableaux. Devant le théâtre, il va même jusqu'à installer une grande lune pour faire la promotion de son spectacle et il demande à la mairie de Paris de couper les arbres devant pour qu'on puisse bien la voir. Pour défendre ses œuvres, il est prêt à tout. Il consacre bien sûr des sommes faramineuses à ses opéras féeries, à grand déploiement, il ne gagne pas d'argent et il va même, après l'échec cuisant de la Haine en 1874, faire faillite. C'est une des raisons qui vont le faire accepter, non sans hésitation, une tournée très lucrative aux États-Unis pour rembourser ses dettes. Il est invité dans le cadre du centenaire de l'indépendance des États-Unis. Voici une lettre qu'il écrit à son ami Villemessant, le directeur du Figaro, je le cite. « Mon cher Villemessant, enfin me voici à New York après une traversée épouvantable. Pendant 3 jours et 4 nuits, nous avons été ballottés, bousculés, renversés par le roulis et le tangage. Tout ce qui n'était pas solidement attaché se brisait. On ne pouvait se tenir debout et à peine assis, il fallait se cramponner à un meuble quelconque. L'ouragan, dans toute son horreur, les vagues balayant le navire, le capitaine, un charmant homme et un homme de sang-froid et d'énergie, je vous en réponds, cherchait à me rassurer. « C'est superbe !» me disait-il. « Il faut voir comme le navire s'enfonce dans les vagues pour remonter superbe au bout d'une minute. Vous devriez voir ça, c'est un beau spectacle !»« Mon cher capitaine, lui répondis-je, comme spectateur, voir ça de loin, ça doit être épouvantablement intéressant. Mais j'avoue que comme acteur jouant un rôle dans la pièce, je trouve ça d'une gaieté plus que modérée. » Voici une pensée adorable d'une jeune Américaine qui était à bord avec sa sœur. Au plus fort de la tempête et où véritablement on était moins que rassurés, nous étions au salon donnant sur le pont du navire, nous tenant tous pour ne pas tomber, où plus d'un faisait tout bas sa prière et recommandait son âme à Dieu. Je n'étais pas le dernier, je vous assure. La petite Américaine dit à sa sœur, « Ma petite sœur, vous devriez bien tâcher de descendre et me chercher mon joli petit chapeau. Je ne voudrais mourir que dans tout mon éclat. Vous faudra-t-il aussi vous monter vos gants ?» reprit l'autre. Enfin, grâce à Dieu, nous en sommes sortis sains et saufs. 2000 environ avant d'arriver à New York, on s'arrête pour la quarantaine. Comme on nous attendait la veille, on avait organisé une promenade en mer pour me chercher. Le bateau, pavoisé avec des lanternes vénitiennes, des journalistes, des ouvriers, une bande militaire de 60 à 80 musiciens, et on m'attendait à Sandy Hook. Mais comme nous n'arrivions pas, le bateau s'avançait davantage, espérant toujours me rencontrer. On était joyeux, on chantait, on riait, la musique jouait mes plus jolis airs. Mais à mesure qu'on avançait, le mal de mer se fit sentir et les musiciens n'étaient pas les derniers à en ressentir les effets. Ce qui fit que, comme dans la symphonie comique de Haydn, où les musiciens disparaissent les uns après les autres en éteignant les lumières, les nôtres n'avaient pas à éteindre les lumières, mais au lieu de rendre des sons, les uns après les autres rendaient l'âme dans la mer. L'effet, à ce qui paraît, était d'un comique achevé. De guerre lasse et notre navire ne se montrant pas à l'horizon, on était bien forcé de retourner à New York. Et ils ont bien fait puisque nous ne pouvions arriver en vue de New York où l'on stationne quelques heures pour la quarantaine et pour la douane jusqu'à 8 heures du matin. Immédiatement, nous sommes accostés par des bateaux qui emmenaient les principaux reports des journaux de New York. Vous comprenez que j'ai fait tout au monde pour ne pas, comme à l'ordinaire, être bête tout à fait. Et je vous assure qu'en 2 heures après, nous sommes arrivés à New York, nous étions déjà de très bons amis. En arrivant à mon hôtel, j'ai été vraiment ému de voir flotter en mon honneur notre cher drapeau tricolore. Le soir, en revenant du théâtre, car dès le premier jour, j'ai visité deux théâtres, je vois la foule assemblée devant mon hôtel, de la lumière électrique partout. On voyait comme en plein jour, au-dessus du balcon de l'hôtel était écrit en grosses lettres « Welcome Offenbach ». Un orchestre d'une soixantaine de musiciens me donnait une sérénade. On jouait Orphée, la Grande Duchesse. Je n'ai pas besoin de vous dire les applaudissements, les cris de « Vive Offenbach ». J'ai été forcé de paraître au balcon, tout comme Gambetta, et là j'ai crié un formidable « Thank you ». Je ne vous dis pas avec quelle clameur ces quelques mots anglais ont été accueillis par la foule. Samedi, j'ai été invité à un dîner donné en mon honneur par Lotus Club, un des premiers ici, des hommes de lettres, des artistes, des négociants, des banquiers, beaucoup de journalistes de toutes nuances. Je vous envoie le menu du dîner. Des discours sans nombre ont été prononcés en mon honneur. Des toasts charmants et spirituels, au possible, ont été portés, en anglais la plupart. On me les traduisait. J'ai répondu par quelques mots, disant combien j'étais flatté et vivement touché de leur chaleureux accueil. Que je savais que depuis longtemps, je leur étais sympathique comme compositeur et que j'espérais que lorsque j'aurais l'honneur de leur être plus connu, je leur serais aussi sympathique comme homme. Je porte un toast aux États-Unis, non pas aux États-Unis tout sec, les arts comme les peuples étant frères. Je porte un toast aux États-Unis, à l'Europe. Voilà à peu près ce que j'ai dit, ce qui a été applaudi à outrance. Je suis sûr que tout ce que je vous écris là vous intéresse, puisqu'il s'agit de moi et que je connais votre longue amitié à mon égard. Adieu, mon cher ami. Embrassez vos chers hôtes. Ma meilleure poignée de main, Jacques Offenbach. Il part donc en tournée, qui lui permet de récupérer une partie de ses pertes et surtout de payer ses dettes. D'abord un concert au Gilmore Garden devant une foule de 8000 personnes. Il donne ensuite une série de plus de 40 concerts à New York et à Philadelphie. Et puis, il y a une anecdote amusante. Pour contourner une loi de Philadelphie qui interdit alors les divertissements le dimanche, notre Jacques Offenbach va déguiser ses numéros d'opérette en pièces liturgiques. Et il annonce un grand concert sacré de Monsieur Offenbach. Le dix mois Vénus de la Belle Hélène devient une litanie et d'autres numéros tout aussi profanes sont présentés comme prières ou comme hymnes. Mais les autorités locales ne s'y trompent pas et le concert est annulé. Il revient en France en juillet 1876. Et dès l'année 1877, il travaille sur une pièce de théâtre, Les Contes Fantastiques d'Hoffmann, de Jules Barbier et de Michel Carré. Offenbach souffre de la goutte depuis les années 1860. On est souvent obligé de le porter dans le théâtre sur une chaise. En mauvaise santé, il est conscient de son état et il espère passionnément vivre assez longtemps pour compléter l'opéra Les Contes d'Hoffmann. On l'entend même dire à Kleinsart, son chien, « Je donnerai tout pour assister à la première. » Malheureusement, Offenbach ne peut terminer la pièce. Il va laisser une partition vocale pratiquement complète et il a commencé l'orchestration. Ernest Guiraud, un ami de la famille, assisté par Auguste, le fils d'Offenbach, âgé de 18 ans, va compléter la partition. La première a lieu à l'Opéra Comique le 10 février 1881 et c'est enfin un triomphe sur cette scène de l'Opéra Comique tellement importante pour lui, triomphe auquel il n'assistera pas. Lui qui composait très rapidement, il a mis des années à écrire les contes d'Hoffmann, car il avait compris qu'il serait son testament musical et qu'il résumerait tout son art. C'est l'extrait numéro 14 et le dernier. Voici un extrait des contes d'Hoffmann. Pour terminer, quelques mots sur Jacques Offenbach et le Second Empire. Cette association semble tellement naturelle qu'on en vient presque à oublier que le compositeur continue à composer après 1870 et qu'il va faire donner 26 nouveaux ouvrages. La tentation est grande de voir en lui un des artistes ayant accès aux officines du pouvoir et qui aurait joui d'un statut privilégié. Contrairement à Wagner, qui sera couvert d'or par Louis de Bavière à la même époque, Offenbach ne compte pas parmi les intimes de Napoléon III. Il ne bénéficie pas de ses largesses. Certes, il jouit de la bienveillance du demi-frère de l'empereur, qui sera le parrain de son fils, mais cela ne fait pas de lui pour autant l'équivalent d'un surintendant de la musique, à l'instar, par exemple, de Lully sous Louis XIV. Retenez aussi qu'Offenbach a été l'un des plus grands virtuoses au violoncelle du XIXe siècle et que c'est lui qui définitivement installe l'humour en musique. L'humour, mais aussi la tendresse, et c'est bien ces deux aspects qui nous rendent ce compositeur éminemment sympathique et qui contribue au succès qu'il continue à rencontrer aujourd'hui auprès de tous les auditeurs. Merci pour votre écoute. Voilà ce portrait en musique de Jacques Offenbach. Nous avons pu aborder les questions d'humour en musique et nous promener au travers de ses œuvres. Alors d'ici une petite heure, vous allez recevoir un mail qui va vous proposer un résumé de cette conférence. Et dans ces mails, vous aurez directement les liens. Vous aurez juste à cliquer dessus et vous allez pouvoir écouter tous ces extraits en entier, parce que j'ai vraiment sélectionné des extraits courts. Et parfois, il y aura aussi des extraits de vidéos. Vous pourrez ainsi visualiser des extraits d'opéra bouffe ou d'opérette. Voilà, si vous avez des questions, vous pouvez à présent dans le chat en poser quelques-unes. Sinon, je suis toujours joignable par mail. N'hésitez pas à me contacter par mail si vous avez des petites questions ou des petites précisions. Je vois qu'il y a des questions sur est-ce qu'il souffrait de rhumatisme et de goutte. Donc, c'est plutôt de la goutte. Hein, comme je vous l'ai dit, il a terminé sa vie. Pas en très bonne santé et il fallait bien sûr souvent utiliser une chaise hein, pour tous ces déplacements. Voilà, écoutez, j'ai été un petit peu long puisque ça fait une heure et demie que nous sommes ensemble. Je vous laisse avec le replay. D'ici une petite heure, il devrait arriver dans vos boîtes mail. Et voilà, pour vous dire que je reste disponible pour toutes vos questions par mail. Je vous souhaite une bonne fin de journée et merci beaucoup d'avoir écouté cette conférence et profitez bien sûr des extraits musicaux et de sa musique puisque quand même, ce qui est le plus important, c'est quand même la musique qui nous a laissé. Merci beaucoup. Au revoir à tous.